continuons aujourd'hui ce que nous avons déjà amorcé depuis plusieurs cultes d'enseignement, donc à parler de Jésus, Jésus l'unique. Lors de notre dernière étude sur Jésus, nous avons étudié le contexte dans lequel Jésus est apparu et la façon dont il a été perçu. Je rappelle quelques éléments. Politiquement, c'était une période plutôt calme. La paix romaine sous Tibère a été une période assez apaisée. Par contre, économiquement, Jésus est arrivé dans une situation qui n'était pas facile. Le petit peuple en particulier était écrasé par les impôts, les taxes romaines qui s'ajoutaient aux taxes juives. Les attentes de délivrance étaient vives et étaient toutes orientées vers la conception d'un Messie libérateur qui rétablirait le règne de David, qui serait le fils de David dans ce sens-là, pour rendre à Israël sa souveraineté, pour assurer à nouveau sa grandeur. Et Jésus, donc, au milieu de tout cela, apparaît, et nous l'avons dit, apparaît essentiellement comme une figure assez énigmatique qui questionne à bien des endroits. Un rabbi galiléen, d'abord. Il vient de Galilée, mais que peut-il venir de bon de Galilée? C'est ce qu'on disait. Une personnalité unique également, où se mêlent l'humilité et des affirmations très fortes sur lui-même, avec la conscience d'une relation unique au Père. Jésus enseigne, Jésus fait des miracles, et pourtant, il prend des distances par rapport à toute publicité qui le déclarerait comme Messie. Et il y a là une sorte d'énigme de la personne de Jésus, de sa façon de faire, qui ne se résoudra qu'à la fin de sa vie, avec sa passion, sa résurrection. Il est le Messie promis, en effet, mais pas de la façon dont on l'attendait en Israël à ce moment-là. Cela devrait passer par sa souffrance, par sa mort, par sa résurrection, et c'est cela que Jésus a voulu préserver tout au long de son ministère. Alors, une fois qu'on a vu cela, je vous propose aujourd'hui d'essayer, de tenter une sorte de vue d'ensemble du ministère de Jésus. Comment est-ce qu'on peut décrire l'ensemble du ministère de Jésus? Comment est-ce qu'on peut en décrire les étapes principales? Comment est-ce qu'on peut aussi éventuellement harmoniser les éléments des évangiles qui nous présentent ce ministère? Comment est-ce qu'on peut aussi les situer par rapport au contexte historique général? Donc c'est un petit peu cette vision d'ensemble que je voudrais vous proposer, vous donner quelques repères. Et je vous invite donc en introduction à lire un texte qui n'est pas des évangiles, mais c'est une présentation dans le livre des Actes qui est faite du ministère de Jésus. Lorsque Pierre s'adresse à Corneille dans Actes au chapitre 10, voilà la façon dont il résume les choses. Donc, acte 10, à partir du verset 37. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, suite au baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, en faisant le bien, en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, lui qu'ils ont tué en le clouant sur la croix. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a désigné juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Voilà le résumé que fait l'apôtre Pierre du ministère de Jésus, et cela évoque des choses que nous connaissons, en tout cas si nous sommes un peu familiers des évangiles. Alors, comment décrire ce ministère de Jésus? Et d'abord, quelles sont les bases pour avoir une vision de ce que Jésus a fait, de ce qu'il a été? Quels sont les repères? Nos sources, ce sont les évangiles, il faut le rappeler. Il existe, en dehors des évangiles et de la littérature chrétienne, quelques mentions de Jésus dans la littérature profane. Mais ces mentions sont bien limitées, elles sont fragmentaires. Par contre, elles permettent de confirmer deux, trois choses. D'abord, que Jésus a bien existé, c'est la première chose. Mais elles ne disent pas grand-chose sur sa vie. Elle confirme aussi que Jésus a vécu et enseigné en Palestine et qu'une grande partie de sa renommée lui est venue en tant que faiseur de miracles. Elle s'est donnée atteste aussi que Jésus a été crucifié par les autorités romaines sous l'instigation des Juifs. Voilà, ce sont les choses essentielles que l'on sait par l'histoire. Ce sont des références de l'historien juif Joseph, de Tacite, et aussi des références que l'on trouve dans la littérature juive, dans le Talmud. On peut comprendre qu'il y ait peu de données sur Jésus dans l'histoire profane. En effet, dans le grand empire romain, il faut bien se dire que la vie d'un rabbin dans une petite province n'avait pas de quoi défrayer la chronique. Au vu de l'ensemble de l'empire, c'était plutôt un fait divers. Bon, bien sûr, avec les siècles, ensuite, le christianisme a pris beaucoup d'importance, d'influence, mais sur le coup, on comprend cette limitation. Alors, nos sources, donc, ce sont les évangiles. Ceci dit, quel est leur but et quel est leur objectif? Premièrement, ce qu'il faut dire, c'est que les évangiles veulent attester la solidité de l'enseignement reçu. Nous avons vu ici Pierre qui, lorsqu'il parle, atteste ce dont il est témoin. De même, les évangiles veulent attester la solidité de l'enseignement reçu. Au moment où ils sont écrits, les gens ont déjà reçu l'enseignement concernant qui est Jésus, ce qu'il signifie véritablement pour la vie des chrétiens. Tout cela s'est transmis par la prédication de l'évangile. L'évangile comme bonne nouvelle pour le salut. Et il est clair aussi que les évangiles, quand ils sont écrits pour permettre aux gens de croire. C'est aussi une forme de prédication. On présente Jésus de telle sorte que l'on invite à croire. C'est ce que Jean nous dit à la fin de son évangile. Mais en même temps, cette foi en Jésus, on veut la fonder. On veut lui donner une base solide. Et c'est pourquoi on ne s'est pas contenté juste d'évoquer quelques petits faits épars de la vie de Jésus ou quelques faits centraux de la vie de Jésus, mais on a voulu écrire vraiment, faire des récits construits, des récits suivis qui parlent de la vie de Jésus, de ce qu'il a été et de sa signification pour nous, pour le salut. Je vous rappelle ici ce que Luc dit de sa démarche dans le début de son évangile, et c'est quelque chose de très représentatif. Luc 1, verset 1 à 4, il dit « Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, en suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été les témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de les exposer par écrit d'une manière suivie, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » Vous voyez, il est question ici d'une prédication qui existe, il y a des gens qui sont les ministres de la parole, mais ces gens sont aussi, il y a aussi des débuts de récits qui ont été composés à partir des éléments qui remontent aux témoins oculaires, et ensuite nous dit Luc, j'ai voulu vraiment écrire quelque chose de manière suivie, mais j'ai fait des recherches exactes sur tout cela. Et de telle sorte que tu reconnaisses la certitude des enseignements reçus. Donc les évangiles attestent la solidité de l'enseignement reçu. En même temps, deuxième chose qu'il faut souligner, c'est qu'un évangile n'est pas une biographie. Les évangiles ne sont pas des biographies de Jésus. Ils n'ont pas comme but de nous fournir un récit détaillé, un récit chronologique de tout ce que Jésus a fait, de tout ce qu'il a été, et de faire ça comme on le fait dans une biographie, de la manière la plus exhaustive, la plus précise possible. Il suffit de faire un peu le bilan de ce que l'on sait de la vie de Jésus. On sait un peu sur sa naissance. On sait très peu sur son enfance. Il y a un trou monumental sur la plus grande partie de sa vie, entre sa naissance, en gros, son enfance, et le moment où il commence son ministère public, nous dit Luc, lorsqu'il a environ 30 ans, et en fait, environ 30 ans, c'est environ, avec environ en plus, hein, Jésus a certainement commencé son ministère à l'âge de 34 ans, c'est ce qui est le plus probable. Donc, entre son enfance et l'âge de 34 ans, on ne sait rien de ce que Jésus a été, de ce que Jésus a vécu, à part qu'il allait au temple quand il avait 12 ans. 12 ans, c'est tout. Vous voyez quand même bien les trous. Et les évangiles ne se concentrent que sur les trois dernières années de sa vie, hein, le ministère public qu'il a eu. Et dans ces trois dernières années, une part très importante est consacrée à sa dernière semaine. Donc ce n'est pas une biographie au sens le plus complet, il y a une orientation. Hein. Il y a une orientation, ce qu'on veut c'est dire l'œuvre de Jésus, on veut dire celle qu'il a accomplie en vue de notre salut, on veut dire aussi son enseignement, ce qu'il a été, mais dans la perspective du salut, dans la perspective de la signification de Jésus pour la foi. C'est dans ce sens que sont écrits les évangiles. Troisième élément, les évangiles, nous avons dit, en lisant ce que dit Luc, sont des récits suivis. L'Église a voulu faire un récit suivi. Mais récit suivi ne veut pas forcément dire écrit avec un plan qui suit la chronologie stricte et détaillée des événements. Et je crois qu'ici, il faut dire que dans les évangiles, dans les récits des évangiles que nous avons, la chronologie ne commande pas tout. Et c'est important de voir cela lorsqu'on essaye de reconstituer un petit peu ce qu'a été le ministère de Jésus. Et en fait, quand on compare entre eux les évangiles, on se rend compte qu'ils ont une certaine liberté pour placer un certain nombre d'événements dans le cadre du ministère de Jésus, et ils placent ces événements à des endroits différents. Alors, une des raisons, c'est probablement le fait qu'un certain nombre d'histoires concernant Jésus ont circulé par tradition orale ou écrite, mais en petites unités. Et certainement qu'au moment de composer leur évangile, les évangélistes ont dit, voilà, j'ai cette petite portion de la vie de Jésus, il faut la placer à un endroit ou à un autre. Et c'est comme ça qu'il fallait faire le récit suivi. Et donc à partir de ce fonctionnement-là, en partie, on comprend qu'il puisse y avoir ici ou là des agencements un peu différents. Alors, je vais juste vous donner un exemple qui illustre que le fait que ce n'est pas toujours la chronologie qui commande les choses. On trouve dans Matthieu et dans Luc un récit qui met en scène trois personnes qui veulent suivre Jésus, ou que Jésus appelle et qui ensuite trouve des excuses. Hein. Il y a un premier qui vient vers Jésus et dit « Je te suis là partout où tu iras. » Et Jésus dit « Oh, fais attention. » Ensuite, Jésus demande à un autre « je viens, suis-moi. » Et il dit « Permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père, etc. » Donc, trois personnes qui sont appelées, qui sont concernées par l'appel de Jésus. Alors, c'est évident que ces deux récits renvoient aux mêmes choses, puisque c'est les trois mêmes personnes, c'est les trois mêmes réponses qui sont faites. Si vous regardez dans Matthieu, ce récit avec ces trois personnes est placé juste au moment où Jésus s'apprête à passer de l'autre côté du lac. Hein, c'est avant le récit de la tempête apaisée. Juste avant qu'il ne monte dans la barque, c'est là que ces personnages interviennent. Et il est dit, après cette intervention des personnages sur le thème « Que veut dire suivre Jésus ?», que Jésus monta dans sa barque et que ses disciples le suivirent. Alors le but de cette construction est clair. Les vrais disciples, nous dit Matthieu, en considérant les choses comme ça, ce ne sont pas ceux qui disent « je veux te suivre » ou « je vais te suivre ». Les vrais disciples, ce sont ceux qui vont avec Jésus sur la même barque et qui sont prêts à affronter tout ce qu'il faut affronter, y compris la tempête avec la délivrance. Ça, c'est la façon dont ce texte, cet épisode est utilisé dans Matthieu. Dans Luc, on trouve ces mêmes trois personnages, mais dans un autre contexte. Luc, à un moment donné, nous dit que Jésus prend résolument la route vers Jérusalem. Et dans la tête de Jésus, c'est vraiment le début du moment où il va vers Jérusalem en vue de la Passion. Et cela demande de la part de Jésus une ferme résolution. Et Luc dit, Jésus prit cette résolution. Et après, ça s'est vu sur son visage parce qu'il a dit, Jésus a durci son visage après preuve de volonté pour marcher vers Jérusalem. Et c'est pendant qu'ils étaient en chemin, pendant ce chemin-là, que que ces trois hommes interviennent et qu'il est question de suivre. Et l'éclairage donné à cet épisode est cette fois-ci différent. Suivre Jésus, ça veut dire quoi dans ce contexte? Ça veut dire être prêt à aller jusqu'au bout avec Jésus. Comme Jésus lui-même va aller jusqu'à Jérusalem, suivre Jésus, c'est aller avec lui jusqu'au bout, jusqu'à Jérusalem, sur ce chemin exigeant. Alors, si on essaye de situer ça par rapport à la tempête apaisée, qui est le repère qu'on avait pour Matthieu, on constate que, chez Luc, la tempête apaisée, elle a été racontée déjà bien avant. Donc, chez Matthieu, ces trois personnages sont décrits avant la tempête apaisée, ici, c'est décrit bien après, bien plus tard. Et vous voyez que la mise en contexte ici de cet épisode répond non pas à un souci de chronologie, mais répond au souci de dire, d'éclairer ce que veut dire justement suivre Jésus au travers du contexte. Hein. Dans l'un, c'est aller sur la barque avec lui, affronter tout et voir ses délivrances. Dans l'autre, c'est être prêt à aller jusqu'au bout comme Jésus est allé jusqu'au bout. Donc, vous voyez, c'est juste une illustration pour dire la chronologie ne commande pas tout. Il y a des moments où certains épisodes des évangiles, ou certains enseignements aussi, ont été déplacés, enfin, ou ont été mis à des endroits différents, parce qu'on veut les faire résonner. L'enseignement, c'est clair aussi. Hein. Si vous prenez le Notre Père et l'enseignement de Jésus sur la prière, chez Matthieu, ça se trouve dans le Sermon sur la montagne, tout près des Béatitudes, tout un ensemble où Matthieu a regroupé, l'enseignement, c'est l'enseignement de Jésus, alors que chez Luc, c'est beaucoup plus tard et de manière bien plus éparpillée. Et c'est que Matthieu a choisi de regrouper en plusieurs grands discours les différents enseignements de Jésus. Là encore, c'est une manière de construire un évangile. Donc les auteurs des évangiles étaient des auteurs responsables qui ont un projet, qui organisent leurs propos comme ils le veulent. Et il faut vraiment en tenir compte. En même temps, les évangiles gardent, avec cette liberté d'organiser, gardent vraiment un souci de véracité. Et ici, il faut vraiment contrer très fort des choses que l'on entend parfois. Vous avez eu parfois peut-être certaines émissions de télé ou des choses comme ça, où on essaye de dire que finalement, les auteurs des évangiles n'étaient pas du tout préoccupés de la véracité, qu'il y avait beaucoup de création de l'Église dans les propos qui sont attribués à Jésus. Il y a vraiment des personnes qui pensent que plus de la moitié des propos qui sont attribués à Jésus sont en fait des paroles que l'Église aurait inventées, créées, conduites par l'Esprit, soi-disant, et mis dans la bouche de Jésus. Hein. C'est ce que disent beaucoup de gens. En fait, c'est une manière aussi pour bien des personnes de se débarrasser en quelque sorte de la dimension miraculeuse qui est contenue dans les évangiles. Dès qu'il y a un miracle ou quelque chose d'un peu particulier qui sort du commun, certains ont tendance à dire ça, c'est une création de l'Église. Et c'est pourquoi aussi, donc, beaucoup estiment qu'il y a beaucoup de création de l'Église dans les évangiles. C'est pas du tout comme cela que les évangélistes présentent leur projet. Vous avez entendu ce que Luc dit. Il dit, mon souci, c'est de fonder vraiment les enseignements reçus, hein, sur ce qui s'est passé vraiment. Et j'ai fait des recherches, etc. Ce qui veut dire que les évangélistes sont des auteurs, oui, des théologiens, oui, des prédicateurs à leur façon, oui, mais aussi des historiens. Ils ont le souci aussi de la véracité et des faits. Hein. Et c'est important de le garder, cela aussi. Et c'est important, surtout dans la perspective biblique, où on affirme que, vraiment, en Jésus-Christ, Dieu est venu vers nous. Si vraiment Dieu est venu vers nous en Jésus-Christ, en vivant une vie d'homme, ben ce qu'il a vécu ou ce qu'il n'a pas vécu, ça a de l'importance, parce que c'est Dieu venu vers nous. Donc il est important vraiment de rappeler cela. Les évangiles gardent ce souci de véracité. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, sur le contexte général de ce qu'est un évangile, comment est présenté le ministère de Jésus? En fait, la différence va être assez grande entre d'un côté Matthieu, Marc et Luc, qu'on appelle les synoptiques, c'est un mot un peu technique, je veux dire, parce qu'ils ont la même optique, hein, la même vision, entre Matthieu, Marc, Luc et Jean de l'autre. La façon dont le ministère de Jésus est présenté diffère de manière assez sensible entre les synoptiques et Jean. Alors, juste un petit rappel géographique. J'espère que la carte s'affiche à peu près. Je rappelle un petit peu, juste pour parce qu'on va parler un peu de géographie, hein, comment les choses se présentaient. Alors, il faut que j'aille un peu là. Donc, juste pour dire, trois grandes régions en Israël. Au sud, la Judée, avec Jérusalem ici. Ensuite, au milieu ici, la Samarie et la Galilée, là, tout au nord. Et je crois que, donc juste, il faut bien se rappeler des choses. Qu'en est-il de la présentation que font les évangiles synoptiques? Les évangiles synoptiques ont un schéma très linéaire du ministère de Jésus. En gros, le ministère de Jésus, si je reprends ma carte, il se passe d'abord en Galilée, et ensuite on descend à Jérusalem. Et c'est vraiment très linéaire entre la Galilée et Jérusalem. Alors, quelques éléments pour juste détailler cela. Si vous regardez, si vous prenez une concordance, vous faites une recherche. Vous regardez dans Matthieu, Marc et Luc et vous cherchez Jérusalem. Quand est-il question de Jérusalem? Vous découvrez une chose, c'est que pour Matthieu, Marc et Luc, les synoptiques, Jésus n'est présent à Jérusalem que lors de la dernière semaine de sa vie. C'est la dernière semaine et le seul moment où Jésus est décrit à Jérusalem. Avant cela, il est en Galilée. Il fait aussi, alors on en reparlera, mais donc avant ça, il est en Galilée. Il fait aussi quelques incursions plus vers le nord, Phénicie, toute cette région ici également. Ça c'est décrit, mais le schéma est très linéaire. Une seule montée à Jérusalem. On sait aussi que la vie des Juifs était, au temps de Jésus, rythmée par les fêtes religieuses. Hein, il y avait plusieurs fêtes religieuses, trois en particulier, qui étaient la Pâque, qui étaient la fête des la Pentecôte et la fête des tentes ou des tabernacles. Et la coutume était que les Juifs puissent essayer autant qu'ils le pouvaient d'aller au moins peut-être pour une de ces fêtes à Jérusalem. Et quand on habitait ailleurs, on faisait des grands déplacements. Et pour ces trois grandes fêtes qui duraient chacune une semaine, il y avait des pèlerins qui venaient de tout le pays, des déplacements, et à Jérusalem, beaucoup de monde qui arrivait. C'était vraiment la coutume pour un juif. Cherchez les mentions de ces fêtes dans les synoptiques. La seule à être mentionnée dans tous les synoptiques est la fête de la Pâque, l'année où Jésus est mort. C'est la seule. Vous ne trouvez aucune autre fête qui est mentionnée. Et si vous voulez, donc, l'impression que l'on a quand on lit les synoptiques, c'est qu'un grand temps donc, de ministère en Galilée, dont on ne sait pas vraiment la durée, il n'y a pas de repère qui est donné de temps, avec une seule visite à Jérusalem, celle de la semaine de la Passion. C'est très linéaire. Que se passe-t-il lorsque l'on arrive chez Jean ? On sait qu'il y a pas mal de différences entre Jean et les synoptiques. Hein, il y a des événements qui figurent chez Jean, qui ne sont pas chez les synoptiques, qui sont dans les synoptiques et pas chez Jean. Hein, par exemple, chez Jean, vous savez qu'il n'y a pas de parabole de Jésus. Hein, il y a aucun, on ne raconte pas de parabole, on ne raconte aucun exorcisme de démons, pas de guérison de lépreux, pas de mention des collecteurs d'impôts. Jean, il y a des choses dont il n'a pas parlé. Hein. Par contre, il y a beaucoup de paroles de Jésus qui ne sont que chez Jean, qui ne sont pas du tout chez les synoptiques. Hein. Les paroles de Jésus sur lui-même, je suis le bon berger, je suis la lumière du monde, je suis le chemin, etc. Ça se trouve que chez Jean. Alors certains ont pensé que Jean, qui a un langage, vous savez, un peu plus d'approfondissement, etc., était surtout très spirituel en quelque sorte. Il ne se préoccupait pas beaucoup des faits. Et par exemple, Clément d'Alexandrie disait « Jean est un évangile spirituel » et dans sa bouche, c'était un compliment. On ne se préoccupe pas beaucoup des choses matérielles, etc. Alors que les autres étaient plus physiques et corporelles. Et pour Clément d'Alexandrie, c'était beaucoup moins coté. Juste pour dire la façon dont on voyait les choses. En fait, on est en train de changer quand même maintenant de perspective. et de se rendre compte que Jean donne des éclairages qui sont très importants. Comment donc le ministère de Jésus est-il décrit chez Jean? D'abord au niveau géographique. Le ministère public de Jésus débute en Galilée. C'est à Cana, en Galilée, que Jésus fait son premier miracle. Cana, c'est juste là. Voilà. Donc c'est à Cana, en Galilée, que Jésus fait son premier miracle. Et on retrouve aussi dans l'Évangile ensuite plusieurs lieux très familiers quand on lit les synoptiques, les questions de Capernaum, de Tibériade, de la mer de Galilée. Tous ces éléments sont des éléments qui rappellent que la Galilée a eu un rôle important pour Jésus. J'en mentionne aussi à plusieurs reprises que Jésus a traversé la Galilée, etc. Mais on découvre aussi chez Jean que Jésus, à plusieurs reprises, se rend à Jérusalem. Et se rend à Jérusalem à l'occasion des différentes fêtes qui sont différentes fêtes qui sont d'ailleurs mentionnées. Et c'est très intéressant de voir cela. Il y a en fait chez Jean 5 déplacements de Jésus à Jérusalem. 5 fois Jésus va à Jérusalem. Je vais juste vous les citer. Dans Jean 2, donc tout au début de son ministère, et c'est là qu'il dit qu'il veut détruire le temple, et c'est aussi à ce moment-là qu'il discute avec Nicodème, première visite tout au début du ministère de Jésus. Ensuite, il est question dans Jean 5, les Juifs célèbrent une fête de religieuse, Jésus se rend à Jérusalem. Dans Jean 7, il est dit ensuite, la fête des tabernacles était proche. Dans Jean 10, on dit ensuite, on fait célébrer à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver, et Jésus vient à Jérusalem. Et puis ensuite, dans Jean 11 et 12, il y a la venue de Jésus lors de sa passion. Donc, 5 déplacements de Jésus à Jérusalem. Et avec souvent des discussions qui sont assez vives entre Jésus et les chefs des Juifs à Jérusalem. Alors, c'est plus compliqué comme schéma, c'est pas aussi linéaire que de dire on part de Galilée et on va à Jérusalem. C'est beaucoup plus compliqué, mais en même temps, c'est beaucoup plus conforme aux habitudes de vie d'un juif de l'époque, puisque c'était quelque chose d'assez courant que d'aller à Jérusalem. En effet, en plus, lorsqu'on essaye de voir la façon dont ce qui se passe quand Jésus est à Jérusalem, la façon dont on décrit les choses, c'est très intéressant de voir que le langage donne des détails très précis. Et je lis ça par rapport aux gens qui diraient « Oui, l'évangile de Jean ne s'intéresse pas beaucoup à l'histoire. » Mais c'est là qu'on a les détails les plus précis sur Jérusalem et sur les endroits où Jésus est à Jérusalem. Dans Jean 5, il est question de la piscine de Bethesda, où Jésus guérit un paralytique, qui a 5 portiques, et précision qui est donnée. Jean 8, verset 20, il est dit que Jésus enseigne dans le temple près du trésor. C'est très précis cet endroit-là. C'était pas très loin de la cour des femmes. Donc Jésus enseigne à un endroit très précis. Ensuite, il est dit que Jésus demande, en Jean 9, demande à un aveugle de se laver les yeux à la piscine de Siloé. Jean 10, Jésus est décrit dans le temple. Il marchait dans le temple sous le portique de Salomon. C'était l'hiver, il faisait froid. Jésus ne s'est pas mis dans la grande cour, mais il s'est mis un peu à l'abri sous le portique. Et on précise ces choses-là. Donc vous voyez, c'est quand même très intéressant de voir que là, il y a des détails très, très parlants, très frappants, qui disent que Jean, qui a écrit les choses ici, il a le sens du détail, le sens des choses. Il raconte des choses précises. Ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir que bien des paroles de Jésus correspondent de manière très proche au contexte dans lequel il se trouve. Alors, je vous explique. Au chapitre 7, Jésus est à la fête, est descendu à Jérusalem lors de la fête des tabernacles. Et il est dit que le dernier jour de la fête, Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne avec moi, à moi et qu'il boive, des sources d'eau vive couleront de son sein. Ce qui est très intéressant, c'est que cette parole-là, elle est vraiment parfaitement en contexte. Parce que lors de la fête des tabernacles, le dernier jour de la fête, on faisait des processions. On était allé à la piscine de Siloé, justement. On est allé chercher de l'eau pour dire vraiment qu'on puisera avec joie aux sources du salut. On amenait ces eaux dans le temple et avec des grandes processions avec l'eau. Et c'est dans ce contexte-là, le grand jour de la fête, que Jésus dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne avec à moi et qu'il boive. » Vous avez vu que ça correspond tout à fait au contexte dans lequel Jésus est censé se trouver, dans lequel il se trouve. De même, juste après, Jésus dit « Je suis la lumière du monde. » C'est dans le même contexte. Et après, la fin de la fête des tabernacles, il y avait une dernière procession, en quelque sorte, où ce qu'on faisait, pour dire vraiment la lumière que Dieu allait apporter, il y avait une sorte de fête de la lumière, où dans les rues, les gens prenaient de la lumière, les gens chantaient, les gens dansaient, remerciaient le Seigneur pour le salut. Et c'est dans ce contexte-là, très précisément, que Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Vous voyez, ça colle vraiment parfaitement avec l'endroit où Jésus se trouve. Tout cela, ça sonne parfaitement juste, ça sonne parfaitement informé.
Excusez-moi, oui. Thierry. Il y a une maman qui a une fille qui s'appelle Elsa, ici. Oui, c'est bon. Oui, mais je ne vous ai pas vu. Merci, okay. Thierry. Excusez-moi.
Très bien. Vous voyez, tout ça, ça sonne très juste. Et donc, les études récentes qui sont faites ont souligné vraiment la précision des renseignements donnés par Jean sur Jérusalem. C'est du solide. Et ça nous rappelle qu'on peut vraiment s'appuyer sur ces éléments donnés par Jean. Un mot encore qui est important. J'ai mentionné la géographie avec les déplacements de Jésus, plus nombreux. Mais l'évangile de Jean permet aussi de mieux situer la durée du ministère de Jésus. J'ai dit que si on avait juste les synoptiques, on a du mal à savoir combien de temps le ministère de Jésus a duré. Jean, déjà, mentionne trois fêtes de Pâques différentes. Ça nous donne déjà un repère. Chapitre 2, une fête de Pâques à Jérusalem. Au chapitre 6, lors de la multiplication des pains, Jean dit « c'était à l'époque de la Pâque ». Alors là, Jésus n'est pas descendu à Jérusalem pour cette Pâque-là. Il est resté en Galilée. Il a fait la multiplication des pains. Donc, deuxième Pâque. Et troisième Pâque mentionnée, c'est celle lors de la dernière semaine de Jésus, celle où il sera mis à mort. Alors déjà, si on dit trois semaines de Pâque, ça balise déjà un ministère qui peut prendre au moins, alors, ce qui calcule combien d'années ? 2 ans. Hein, 3 intervalles, au moins 2 ans, avec un petit peu avant, un petit peu après. Ça balise déjà au moins 2 ans, 2 ans et quelque chose. Hein. Alors ça donne déjà cette première indication sur la durée du ministère. Mais plusieurs indices laissent à penser qu'il faut ajouter certainement encore une Pâque supplémentaire entre celle du chapitre 2 au début du ministère de Jésus et celle où il y a la multiplication des pains. Qu'est-ce qui permet d'ajouter cette Pâque supplémentaire ? C'est une indication qu'on trouve dans les évangiles synoptiques. Il est dit que les disciples de Jésus ont été critiqués à un moment donné parce qu'ils arrachaient des épis de blé. À quel moment est-ce qu'on arrache des épis de blé ? C'était au printemps. Donc c'était juste à la période de Pâques. Et quand on regarde l'ensemble des récits, on ne peut pas mettre ça juste collé à la multiplication des pains, ça a lieu bien avant la multiplication des pains, et on ne peut pas mettre non plus au tout début du ministère de Jésus. Donc ça, c'est une indication que certainement, il faut encore ajouter une année en plus, et dire que le ministère de Jésus a duré 3 ans et quelque chose. 3 ans et demi, probablement autour de 3 ans et demi. Mais au moins 3 ans, avec ensuite un peu plus d'un côté ou de l'autre de ces fêtes de Pâques. Et c'est donc une indication qu'on peut avoir. Donc bilan, si on essaie de dire le cadre global du ministère de Jésus, une période de 3 ans et demi à peu près de ministère, et au moins 5 séjours différents à Jérusalem. Alors, on pourrait maintenant essayer de voir quelques éléments. Alors, attendez, je suis un peu perdu dans mon truc. Donc là, je fais le résumé de tout ce que j'ai essayé de vous dire. Donc, 3 ans et demi de ministère, 5 séjours à Jérusalem. Essayons maintenant de voir quelles pourraient être les grandes étapes et les dates aussi pour autant qu'on puisse les situer du ministère de Jésus. Je vais d'abord vous faire un schéma un peu général et ensuite on va un peu plus détailler. Je ne vous raconterai pas tout, mais c'est juste pour fixer quelques éléments. Première étape, ce sont les débuts. On peut dire les débuts, donc à partir de fin de l'année 28 jusqu'à mai de l'année 30. Hein. Ce sont les débuts, avec le début du ministère de Jésus, de Jean-Baptiste d'abord, et ensuite les débuts en Galilée et la première Pâque de Jésus à Jérusalem. Deuxième étape, c'est ce qu'on appelle le ministère galiléen. Donc après la première Pâque à Jérusalem, depuis l'arrestation de Jean-Baptiste jusqu'à la transfiguration. Ça donne des repères qu'on connaît un petit peu. Et ça, ça a lieu de mai de l'année 30 jusqu'à septembre 32. C'est la partie la plus importante. Troisième étape, c'est de la transfiguration à la dernière semaine de Jésus. Là, il y a eu encore quelques mois, entre septembre 32 donc, et mars 33. Et puis, quatrième étape, c'est de la semaine sainte à l'Ascension. Donc depuis mars 33, qui est certainement l'année de le moment de la, enfin mars-avril, donc la dernière semaine de Jésus, mai 33, l'ascension, Jésus est monté au ciel le 14 mai 33. Alors, les débuts donc du ministère, quelques éléments. S'il faut situer les choses, donc l'évangile commence par le début du ministère de Jean-Baptiste. Cela se situe vraisemblablement fin 28 ou début 29, ça on ne sait pas exactement. L'indication qui est donnée, c'est dans Luc chapitre 3 verset 1, Jean-Baptiste commence son ministère la 15e année de Tibère. La 15e année de Tibère, cela donne une date assez précise, c'est entre le 19 août 28 et le 19 août 29. Ça on le sait très bien par l'histoire comparée. Donc le début du ministère de Jean-Baptiste se situe à ce moment-là. Jean-Baptiste donc commence son ministère. Il commence son ministère de l'autre côté du Jourdain, en Pérée. Donc si vous voulez, ici c'est la Judée avec Jérusalem ici. La Pérée, c'est la région qui est de l'autre côté du Jourdain. Et donc l'endroit où Jean commence son ministère, c'est ici, un endroit qui s'appelle Béthanie, nous dit Jean, qui est différent de Béthanie, la ville où habitaient Marthe et Marie. Hein. Béthanie de Marthe et Marie, c'est ici, hein, près de Jérusalem. Là, c'est Béthanie en Pérée. Et donc, c'est dans cette région-là, près du désert aussi, que Jean commence son ministère. C'est là aussi que Jésus vient d'être baptisé. Auprès de Jean, probablement fin 29, c'est ce qu'on pense. Ensuite, il y a la tentation de Jésus au désert, les premiers contacts de Jésus avec les disciples de Jean. Hein, donc, Jésus a donc commencé à prendre contact avec des disciples de Jean qui s'intéressaient à lui, suite à l'annonce qu'avait faite Jean. Et il nous a dit ensuite que Jésus retourne en Galilée après ses premiers contacts. Et c'est là qu'il rencontre aussi Philippe et Nathanaël. Juste pour vous montrer sur la carte, lorsque Jésus, donc ici, est avec Jean-Baptiste et quelques disciples, ensuite il retourne en Galilée. Vous voyez que ça fait quand même un bon petit chemin à faire pour aller jusque là-haut. C'est dit en un verset dans l'évangile selon Jean. Et donc il y a le miracle de Cana ensuite qui intervient. Ça, c'est une chose connue en Galilée. Et puis, ensuite, si on suit l'évangile de Jean, Jésus va descendre vers Jérusalem pour la première fois où il vient, pour la Pâque, une fois qu'il a commencé son ministère. Et là, donc, il y a ce récit où Jésus chasse les vendeurs du temple et où Jésus également dit, quand on le conteste, si vous détruisez ce temple, Jésus, je peux... Enfin, voilà, si vous détruisez ce temple, moi je le rebâtirai en trois jours. Hein. Alors, deux, trois choses assez intéressantes pour situer cela. Ça pose un petit peu un problème, vous savez que il est aussi question dans les synoptiques que Jésus a chassé les vendeurs du temple. Mais ça, dans les synoptiques, ça se passe à la fin de la vie de Jésus. Ça se passe lorsque Jésus est entré à Jérusalem lors de la dernière semaine de sa vie. ici, chez Jean, c'est au tout début. On s'est dit, comment expliquer ces choses-là? Une fois, deux fois, est-ce qu'il y en a un qui a bougé l'événement, etc. Moi, j'ai pensé assez longtemps que Jean avait probablement placé la purification du temple par Jésus, qu'il avait placé au début comme une sorte d'annonce de ce que Jésus allait faire. On le met au début, ça s'est passé à la fin, mais on le met au début de l'évangile pour dire Jésus va faire des choses nouvelles, Jésus va faire un temple nouveau. J'étais assez convaincu que probablement, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Alors là, j'ai pas mal reçu de ce très très bon ouvrage là qui est sorti récemment, hein, de Jean-Christian Petit-Fils, qui est un historien très connu, hein, sur Jésus. Et lui, il argumente assez fortement pour le fait de dire que ça s'est passé en l'an 30. Alors, vous dites, ces arguments sont doubles. Premier argument, c'est de dire, en fait, on a constaté qu'en l'an 30, les chefs du temple avaient fait une innovation. Jusque-là, on immolait les bêtes, etc., à côté du temple, sur le mont des Oliviers. Et les gens venaient avec leur truc, ils volaient ailleurs. Et ça a été une innovation des prêtres en particulier, pour avoir le gain qui allait avec, de faire cela, et c'est précisément, d'après les données qu'on a, en 30, que cette nouveauté s'est faite. Alors ça prendrait sens, le fait que Jésus arrive au temple, voit cette nouveauté, et dit, et pas de ça. Vous voyez, donc ça c'est quelque chose qui est assez fort. Et le deuxième élément qui est intéressant, c'est que dans cette discussion qu'il y a sur la question de détruire le temple ou pas, les Juifs disent à Jésus, mais il a fallu 46 ans pour construire ce temple. Et toi, tu dis que tu peux le détruire en 3 jours. Alors, en fait, donc 46 ans, on sait que c'est Hérode, donc le grand, qui avait commencé la construction du temple, et il l'avait commencé en 16 avant Jésus-Christ. 46 ans, et c'était toujours en construction. Si on dit ça fait 46 ans, ça nous renvoie à l'année 30. On est très exact. Donc tout ça converge un peu pour dire que très certainement, on est en année 30 à ce moment-là, et que Jésus a certainement fait quelque chose à ce moment-là pour protester. Et moi j'en arrive maintenant à l'idée de penser que probablement il y a une première protestation de Jésus. On ne sait pas l'ampleur qu'elle a, il n'est pas question que les chefs des gardes sont venus ou quoi que ce soit, peut-être ça a été limité. Et je pense qu'à la fin de son ministère, Jésus a encore donné un signe comme ça, avec beaucoup plus de force, parce qu'il y avait tout son ministère derrière, avec le rappel de ce qu'il avait déjà fait. Donc je pense assez plausible maintenant qu'il y ait eu probablement deux actes, qui peut-être l'un plus discret, l'autre un peu plus fort, on ne sait pas exactement, mais que probablement les choses se sont passées comme ça. Voilà. En tout cas, donc, Jésus est à ce moment-là donc à Jérusalem. C'est aussi là qu'il rencontre Nicodème, à qui il parle vraiment de ce que veut dire entrer dans le royaume de Dieu, et Nicodème qui deviendra quand même un allié de Jésus auprès du Sanhédrin. Hein, ça, il faut vraiment s'en rappeler. À un moment donné, il prendra position pour Jésus, c'est Jean chapitre 7. Et puis, à un autre moment où Jésus est vraiment en danger, et visiblement, il est averti par quelqu'un qu'il est en danger. Et c'est fort probable que Nicodème ait joué ce rôle. L'évangile de Jean nous dit aussi qu'après cette Pâque, première Pâque, Jésus a eu un court ministère en Judée, et que Jésus donc a baptisé aussi comme Jean baptisait. Hein. Et certainement qu'il est allé à l'endroit où Jean baptisait. Jean nous a-t-il dit baptiser, continuer ailleurs, et donc un court ministère de ce type-là. Et c'est aussi donc dans cette même ligne que Jésus se rend en Samarie, le récit qu'on a lu dimanche, que M. Blocher nous a commenté dimanche dernier. Jésus se rend en Samarie à ce moment-là, vraisemblablement en mai de l'année 30. Quand Jésus dit « Regardez les champs qui sont blancs pour la moisson », ça correspond bien juste à cette période-là aussi. Ça veut dire certainement à ce moment-là. Vous voyez, les débuts se font comme cela, début discret en Galilée, premier disciple, etc. Et puis la première Pâque à Jérusalem et Jésus en Samarie. Ensuite, il y a une grande étape, une deuxième étape qui va de fin 28 à mai 30, donc qui est le ministère de Jésus en Galilée, de l'arrestation de Jean-Baptiste jusqu'à la transfiguration. Et c'est là-dedans, si vous voulez, que dans cette trame, qu'il faut mettre les données que je vous indique de Matthieu 4 à 18, etc. On ne sait pas trop comment placer tous ces éléments, Mais en tout cas, c'est dans cette période-là que tous ces éléments, Marc 1 à 9, Luc 4 à 9, Matthieu 4 à 18, en gros, sont situés pendant cette période entre l'arrestation de Jean-Baptiste et la transfiguration. Alors, je vous donne juste quelques éléments. Jésus commence donc d'abord par un ministère, donc, son ministère en Galilée, une première partie, avec comme élément quand même assez décisif pour lancer cette partie du ministère de Jésus en Galilée, l'arrestation de Jean-Baptiste. Hein. Jésus s'est situé un petit peu dans la ligne de Jean-Baptiste jusqu'au moment où Jean-Baptiste a été arrêté. Donc Jean-Baptiste a été arrêté par Hérode en mai de l'année 30. Il y a des témoignages de ça qui sont donnés par l'historien Joseph aussi. Et donc Jean-Baptiste a été... il avait reproché à Hérode... Antipas, le fait d'avoir pris la femme de son frère. Hein, donc, juste pour dire, Hérode avait un demi-frère qui s'appelait Philippe, mais c'était un Philippe un peu obscur qui régnait pas, qui était à Rome qui avait une femme Hérodiade. Et donc, Hérode, Antipas, qui gouvernait sur la Galilée, a tombé amoureux d'elle, etc., a voulu la prendre. Et il a chassé sa première femme, qui habitait dans le royaume, qui était une fille du roi des Nabatéens. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Pétra. C'était le royaume qui était à Pétra. Et c'était la fille d'un roi qui s'appelait Arétas. Un roi dont il est question d'ailleurs dans l'île des Actes, parce que Paul certainement s'est rendu pendant un moment donné à Pétra aussi, chez Arétas. Donc juste pour dire un peu, quand Jean-Baptiste est arrêté, ça libère d'une certaine façon le début du ministère de Jésus pour annoncer le royaume de Dieu, pour faire ses enseignements, ses miracles. Et je rappelle une différence fondamentale entre Jésus et Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a simplement prêché, il n'a fait aucun miracle. Jésus, lui, prêchait et faisait des miracles aussi. Donc, c'est vraiment les signes du royaume qui vient. Il y a une différence. Alors, je mets juste la carte pour dire simplement que Jean-Baptiste, arrêté en Galilée, a été emprisonné à cet endroit-là, Machéronte. C'est là qu'il y avait une forteresse d'Hérode. C'est là qu'il a été emprisonné. Ensuite, après cela, donc Jésus continue son ministère en Galilée, dans toute cette région, avec des noms que l'on connaît, Tibériade, Nazareth, Cana, Magdala, etc. etc. Donc c'est là que se situent bien des choses, le sermon sur la montagne, le choix des douze apôtres, un certain nombre de miracles, etc. Peut-être juste une chose qu'on peut noter, c'est le fait que Jésus, en Galilée, a surtout travaillé dans les villages. Il n'est pas allé dans les grandes villes. Il y avait deux grandes villes. Deux grandes villes, c'était d'une part Tibériade et l'autre Séporis. Hein, c'était les deux grandes villes. Tibériade, ça avait été construit en l'honneur de l'empereur Tibère, c'est pour ça que ça s'appelait Tibériade. C'est une des grandes villes, Séporis aussi. Et Jésus n'y va pas, il préfère être dans les petits villages qui sont ici de Galilée, dans ces mots que l'on connaît. Et on pense que une des raisons aussi, c'était quand même qu'il fallait qu'il se protège d'Hérode. Il fallait qu'il soit prudent aussi, et donc Jésus a exercé son ministère de cette façon-là. Donc on reviendra là-dessus, mais c'est pendant toute cette période où il y a vraiment l'enseignement de Jésus qui est donné. C'est aussi le moment où Jean-Baptiste questionne à un moment donné, il est dans sa prison là, très loin, éloigné de tout, le pauvre, et il reste dans cette prison. Et c'est là aussi que Jésus répond donc par les signes qu'il accomplit. C'est là qu'il y a des premières controverses sur le sabbat, où sa famille ne croit pas en lui. Et c'est finalement, à la fin de l'été 31, Jean-Baptiste est décapité. On pense que c'est à la fin de l'été 31. Un des éléments qui aide, c'est le fait qu'après, il est question d'une visite de Jésus à Jérusalem dans Jean 5, verset 1, où on parle de Jean-Baptiste comme au passé. Donc on sait que là, il y a un repère, il est mort à ce moment-là. Donc voilà. Donc voilà, si vous voulez, cette période, ministère en Galilée. Toujours pendant ce grand ministère galiléen, Jésus vient pour une fête à Jérusalem. C'est dit dans Jean 5, verset 1, il y eut une fête juive à Jérusalem. Et on pense que probablement c'était le nouvel an. Le nouvel an, c'est se passait au début septembre. Hein. Donc c'est le nouvel an. Et c'est là que Jésus guérit le paralytique de Bethesda, de la piscine à Bethesda. Alors, en fait, c'est le moment où les chefs des Juifs retrouvent Jésus. La dernière fois qu'ils l'ont vu à Jérusalem, c'était quand il avait fait son coup dans le temple, là. Et en fait, on est 17 mois après, un an et demi après. Un an et demi après, ils retrouvent Jésus, de nouveau le même, et avec donc des controverses. Et là, la controverse porte sur le fait que Jésus a guéri ce paralytique et lui a dit de prendre son lit, et il a fait ça un jour de sabbat. Et la controverse devient forte si on lit les évangiles, puisque la réponse de Jésus à cette question sur le sabbat, de dire « Pourquoi tu travailles le jour sabbat ?», c'est de dire « Tout comme mon Père travaille et agit, de même, moi aussi j'agis ». Et la conclusion qu'en ont tiré les chefs des Juifs, c'est qu'ils se faisaient l'égal de Dieu. Et c'est vrai. Parce que c'est pas, Jésus ne dit pas simplement comme Dieu agit, moi j'agis. Mais Jésus se sert du fait que Dieu agit continuellement dans sa création et même après le septième jour de la création. Dieu agit continuellement dans sa création. Il se sert de cela pour aller au-delà d'un commandement que Dieu a donné, qui est le commandement du sabbat. Donc, si vous voulez, c'est pour aller au-delà d'un commandement de Dieu que Jésus fait appel à l'action de Dieu. Et c'est pour ça qu'il a dit, Jésus, il considère vraiment que Jésus se fait l'égal du Père. Une chose intéressante quand même, c'est que ça va assez bien avec le contexte du Nouvel An, puisque lors de la fête du Nouvel An, on célébrait le Dieu créateur et les actions du Dieu créateur. Et Jésus se sert aussi de cela pour dire, ben, comme le Père agit dans sa création, moi-même j'agis aussi. Et vous voyez, donc là, il y a vraiment, à ce moment-là, de nouveau un rendez-vous à Jérusalem, et avec une opposition qui commence à se faire assez forte, et des controverses entre Jésus et les chefs juifs. Ensuite, les choses continuent, Jésus retourne en Galilée. On ne peut pas placer énormément, on ne sait pas trop le détail des événements à placer. La seule chose qu'on peut dire, c'est que dans cette période entre septembre 31 et avril 32, on arrive vers la fin. Donc de avril 32, c'est un repère parce que c'est la multiplication des pains qui a eu lieu lors d'une période de Pâques. Et là, il y a un moment assez crucial dans le ministère de Jésus. C'est ce qu'on appelle la crise galiléenne. Jésus avait eu beaucoup de gens qui l'avaient suivi, écouté sympathiquement et autres. Et voilà que, après la multiplication des pains, Jésus fait un discours quand même qui est très très fort sur « Je suis le pain de vie ». Et pour dire « Je suis le pain de vie », il est à Capernaum, dans la synagogue, et il dit « il faut manger mon corps, il faut boire mon sang ». Je suis le pain de vie, j'apporte la vie, hein, Jésus, c'est une manière imagée de dire il faut croire en moi, s'approprier ce que je fais, mais s'approprier, c'est Jésus dit comme manger mon corps et boire mon sang. Il dit ça parce qu'il veut signaler qu'il n'est pas simplement la manne comme la manne donnée dans le désert, mais qu'il faudra qu'il meure pour qu'il puisse nous apporter ce pain de vie. Donc il parle de son sang à cette occasion-là. Et là, c'est quelque chose qui est très heurtant pour les gens. Ils n'acceptent pas cela. Et il est dit qu'à ce moment-là, de nombreux disciples ont quitté Jésus. La crise galiléenne, Jean 6, verset 66. Et Jésus voit ces 12 qui restent avec lui, et il leur dit, beaucoup sont partis, hein. Il dit, vous voulez pas vous rester encore avec moi? Vous ne voulez pas partir aussi? Et c'est là que Pierre dit, mais Seigneur, à qui d'autre irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Donc là, il y a une crise autour d'un enseignement de Jésus, et certainement que la popularité de Jésus baisse à ce moment-là de manière très très nette, et il se retrouve juste avec quelques disciples. Et c'est ici que l'on découvre aussi Jésus qui va sortir des frontières de Galilée et qui va aller un peu plus au nord. Il y a plusieurs récits qui montrent d'une part Jésus qui est ici dans cette région de Tyr et de Sidon. Hein, donc, il quitte la Galilée pour aller vers Tyr et Sidon. Donc, ça, c'est la femme syrophénicienne, hein, qu'on dit, cette femme qui demandait que Jésus guérisse sa fille. Et donc, il est dans cette région-là. Et puis, il y a un autre moment aussi où il est question de Jésus qui est avec ses disciples à Césarée de Philippe. C'est ici, de l'autre côté. Il a quitté la circonscription d'Hérode Antipas pour aller dans l'autre qui est gouverné par Philippe. Et donc, il se trouve aussi à cet endroit-là. Et c'est là, à Césarée de Philippe, qui était d'ailleurs une ville très, très hellénisée. Les gens vivaient de manière à la grecque dans cette ville-là. Il y avait des sources d'eau, parce qu'on n'était pas loin du mont Hermon, des sources d'eau, et on fêtait, on célébrait le dieu Pan, qui était le dieu grec des bergers, etc., de la nature. Et donc, Jésus est là, à Césarée de Philippe, dans cette ville très hellénisée, finalement. C'est là aussi que Pierre, et il demande, mais qui dites-vous, qui dit-on que je suis, qui dites-vous que je suis? Et Pierre fait cette confession, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus rappelle ici que pour être cela, il faudra qu'il meure, hein, ce que Pierre refuse, mais que Jésus affirme très fortement. C'est aussi peu après cette période-là qu'aura lieu la transfiguration. Alors, Jésus est à Tyr, Sidon. Il est aussi certainement un peu en Galilée encore. Il doit tourner d'une certaine façon. C'est une période où, vous savez, il y a un moment donné aussi où on dit que la fête des tabernacles approche. Et les frères de Jésus, la famille de Jésus, les gens de Nazareth, lui disent, écoute, il faut va à la fête et montre un peu qui tu es à cette fête. Et Jésus dit, écoutez, non, j'y vais pas maintenant. Il met une distance. Et on pense que c'est probablement autour de ce moment-là que Jésus les quitte et qu'il va sur la montagne où il sera transfiguré. Et alors, si vous voulez, certains disent traditionnellement que le mont de la transfiguration, c'est ici le mont Tabor. Mais il n'est pas certain que ce soit le mont Tabor. Il est fort probable que ce soit plutôt là-haut, le mont Hermon, au Liban. Il est question d'un endroit qui était un endroit un peu désert, etc., pour la transfiguration. Le mot Tabor, ça c'est traditionnel, hein, c'est un évangile apocryphe qui le dit. Mais historiquement, on sait que sur le sommet du mont Tabor, il y avait une forteresse qui était installée. C'est pas tellement l'endroit un peu désert où on peut se retrouver. Alors que là-haut, le mont Hermon, une autre montagne, c'est là d'où venaient toutes les sources d'eau, c'est plus probable comme lui. En tout cas, donc, c'est la transfiguration. Et lorsque Jésus est transfiguré, il est dit qu'il parle avec Élie et avec Moïse de son départ pour Jérusalem. Hein. Et donc, c'est certainement suite à cela que Jésus décide d'aller à la fête de Jérusalem. La fête des... C'est pas la dernière Pâque. Hein. C'est la fête de la fête des tabernacles à laquelle ses frères lui disaient « Vas-y ». Il y va, mais ça fait partie de son chemin vers sa passion. Donc ça, c'est pour toute la partie du mystère galiléen. Je vois que la montre tourne. Alors ici, maintenant, je voulais juste dire un mot ici, c'est qu'à partir de là, on a un schéma très différent entre Luc en particulier et Jean. Luc dit, à partir de ce moment-là, Jésus prend la direction de Jérusalem. Il va vers sa passion. Et c'est vraiment l'impression que, quand vous lisez ça à partir du 9, vous vous dites qu'il y a un seul chemin vers Jérusalem. En fait, Jean nous dit que c'est beaucoup plus compliqué. C'est qu'après la transfiguration, Jésus va en effet à Jérusalem, mais c'est pour la fête des tabernacles. Il y retourne une autre fois pour la fête de la dédicace qui avait lieu... ça m'échappe. Je crois que c'est au début de l'année, oui, c'est ça. En septembre. J'ai un trou, je ne l'ai pas sur le note. Qui a lieu juste un tout petit peu plus tard, pardon. Donc je crois que c'est 2-3 mois après. Et c'est seulement ensuite c'est des mois après, que Jésus vient à Jérusalem pour mourir. Donc d'un côté, Luc dit, Jésus va, il prend le chemin pour Jérusalem, et pour Jean, en fait, il y a trois étapes pour aller à Jérusalem. Je crois qu'il faut s'en rendre compte de ça. Et je crois qu'on peut dire, Luc nous dit en quelque sorte, le chemin intérieur de Jésus, intérieurement il va vers Jérusalem, mais en fait, il a fait quand même trois boucles pour cela. Il est allé plusieurs fois à Jérusalem. Et je crois que c'est juste intéressant de le noter. Alors, je vais aller assez vite là-dessus. Donc Jésus s'y rend d'abord pour la fête des tabernacles, c'est là qu'il fait sa déclaration sur « si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive », c'est là qu'il se déclare aussi comme celui qui est la lumière du monde. Ensuite, il retourne en Galilée, certainement, et probablement c'est là qu'on peut mettre un épisode comme Marthe et Marie, probablement aussi la mission des 70 qui peut s'insérer à cet endroit-là. Puis Jésus revient en décembre 32 pour la fête de la dédicace. La fête de la dédicace, c'était une fête qui disait la purification du temple après qu'il ait été profané par Antiochus IV en 164 avant Jésus-Christ. Et là, Jésus parle d'être le bon berger. Mais là aussi, on demande très très clairement à Jésus, mais dit, mais maintenant, dis-nous vraiment qui tu es. Est-ce que vraiment tu es le Messie ou pas? Et on voit qu'à Jérusalem, les chefs, ils s'impatientent, ils veulent savoir. Jésus répond par le bon berger. Et là encore, le texte d'Ézéchiel 34 qui dit que Dieu serait le berger de son peuple était lu à cette période-là de la fête de la dédicace. Jésus adapte certainement son enseignement aussi au contexte. Mais il y a une situation très chaude à laquelle Jésus échappe de justesse. Il nous a dit dans Jean 10, Jésus réussit à leur échapper. Donc il est là en situation critique à Jérusalem. Nous, quand on lit le bon berger, c'est très gentil, etc. Jésus a dit ça dans un contexte qui était critique, qui était difficile. Et puis donc ensuite, Jésus va être en Pérée et en Judée pendant quelques mois encore, juste avant de retourner à Jérusalem pour sa passion. Pérée, il nous a dit qu'il se retrouve ici, en Pérée. Jésus revient après avoir... Il est en danger à Jérusalem, ici, et il ne remonte pas en Galilée, mais il va ici, il nous a dit qu'il revient à l'endroit où Jean avait baptisé autrefois. Hein, donc c'est l'évangile de Jean qui nous dit ça. Il revient en source ici, donc de l'autre côté du Jourdain. Il passe un certain temps là où il se réfugie, donc on est à la fin de l'année 32, hein, donc on est tout près. On est 3 mois avant la mort de Jésus, hein, donc c'est les 3 derniers mois de la vie de Jésus. Et si vous voulez, c'est certainement qu'il a aussi dit à Marthe et Marie où il allait se réfugier. Parce que vous souvenez, c'est là qu'intervient le moment de la mort de Lazare. Lazare meurt juste peu avant quelques semaines ou mois avant la passion de Jésus. Et les sœurs, elles envoient quelqu'un chez Jésus, donc elles savent où il est, alors qu'il est en train de se réfugier plutôt dans cette région-là. Et ça explique aussi pourquoi il y a un vrai problème pour Jésus de se rendre en Judée. Il y a une difficulté à ses disciples. Et Thomas, quand il dit « on va y aller », quand Jésus dit « on va y aller voir Lazare », Thomas dit « on va mourir avec lui hein, ». Parce qu'il y avait une opposition pour Jésus, ce n'était pas évident du tout de retourner à Béthanie, chez Marthe et Marie. Jésus fait le chemin à ce moment-là depuis la Pérée lors de la mort de Lazare. Et ensuite, donc, il retourne vraisemblablement par Béthanie. Et on sait que quand il reviendra à Jérusalem pour sa dernière semaine, il aura passé d'abord par Jéricho. Hein, c'est là qu'il y a l'histoire de Zachée. Ensuite, il va sur Jérusalem. Et c'est là la dernière semaine de la vie de Jésus. Avec donc les repères concernant la dernière semaine, donc c'est fin mars de l'année 33 que Jésus entre à Jérusalem. La date de la crucifixion peut être fixée de manière assez claire maintenant. C'est le vendredi 3 avril de l'an 33. Donc la résurrection de Jésus a lieu le 5 avril 33, l'ascension le 14 mai 33 et la Pentecôte le 24 mai 33. Ça, ça donne un peu les repères chronologiques. Mais voyez donc, on a un schéma donc assez complet comme cela du ministère de Jésus, de la façon dont les choses se sont mises ensemble. Alors, je conclue juste par un petit mot. En disant, je crois que c'est important, j'essaie de vous faire montrer la complémentarité qu'il y a entre les synoptiques et Jean. Vous voyez que si on lit juste les synoptiques, on a une certaine vision des choses. Si on lit Jean, on voit que les choses sont un peu plus complexes. Hein. Et je crois que c'est intéressant de voir que Jean nous apporte ce complément par rapport aux synoptiques, avec, me semble-t-il, quand même, une chose qui est bonne à saisir. On a bien les images du ministère de Jésus qui allait de ville en ville, dans les villages, etc. On sait que Jésus à Jérusalem, ça a été quand même assez particulier. Et ça, c'est Jean qui nous en parle. Jésus à Jérusalem, alors il y a eu plusieurs choses. Il s'est révélé quand même plus qu'ailleurs, finalement. Si vous lisez l'évangile de Jean, vous voyez qu'il dit beaucoup de choses sur lui-même. Pourquoi ? Mais je crois que c'est parce que, d'une part, à Jérusalem, il y a eu un moment ou un autre, il a été avec des individus. Et là, à Nicodème, par exemple. Là, il dit vraiment beaucoup plus de choses quand il est avec un individu. On ne sait pas, peut-être qu'en Galilée, il a pu dire aussi beaucoup de choses avec des individus, hein, mais ça ne vous est pas rapporté. Mais là, on a des choses avec des individus. Et puis ensuite, dans les confrontations qui ont lieu à Jérusalem, Jésus est opposé à des théologiens, vraiment très nets. C'était certainement les plus farouches. Hein. Et donc, ces controverses sont là, et Jésus en dit beaucoup sur lui-même, sur sa conscience d'être fils de Dieu, etc. Et il trouve des manières, ce qui est intéressant, c'est voir, il trouve des manières souvent un petit peu indirectes pour dire les choses. Il fait comprendre les choses au chef des Juifs, mais c'est quand même assez clair au bout. Donc on a un Jésus qui ressemble au Jésus des paraboles, etc., mais qui en dit plus, hein, qui en dit plus sur lui-même, parce qu'on est dans ce contexte, il discute avec des théologiens qui interpellent, qui vont assez au bout des choses. Et je pense que pour nous, c'est intéressant de recueillir aussi cela, et de nous rendre compte que les temps, en tout cas, de Jésus à Jérusalem ont été des temps assez intenses, assez forts dans ce qu'il a dit de lui-même sur son ministère, sur sa mission, et puis avec ses controverses. Et je vous invite à lire ces controverses entre Jésus et les chefs des Juifs, en essayant de voir vraiment toute la conscience de Jésus que cela représente. Moi, je sais que j'ai eu quelques petites discussions avec Karim. Karim, il raffole l'évangile de Jean. Et moi, j'aime pas parce qu'il y a trop de bagarres. Moi, je préfère quand c'est doux et tout ça. Et c'est vrai que les controverses entre Jésus et les chefs du peuple, c'est un peu énervant. Moi, je trouve que ça. Mais il faut les lire d'une bonne façon, avec une meilleure façon, et dire, au travers de cela, qu'est-ce que Jésus dit de la conscience de lui-même ? Qu'est-ce qu'il a comme conscience de lui-même ? Et là, on se rend compte que la personnalité de Jésus, il y avait une profondeur de compréhension de lui qui nous est absolument inaccessible, et qu'il faut essayer de saisir au travers de ce que Jésus dit, quand il parle de sa relation avec le Père, etc., de ce qu'il voit faire au Père. Il y a toute une dimension là de la vie intérieure de Jésus, et de ce que ça voulait dire, Jésus pleinement Dieu et pleinement homme, que l'on découvre un peu plus dans ces récits-là en particulier. Et je crois que ces récits de Jean et ce ministère de Jésus, ces temps de Jésus à Jérusalem, ont été aussi très, très riches de sens pour l'Église au travers de tout ce qui est vécu. Et c'est ce que je vous invite aussi à relire et à redécouvrir lorsque vous reprendrez les évangiles. Voilà ce que je voulais vous dire sur cet itinéraire avec le ministère de Jésus et ses différentes, la façon dont il est présenté à la fois dans Jean et dans les synoptiques. J'espère que vous n'êtes pas trop perdu avec des choses très techniques, mais j'espère que ça donne quand même une manière d'essayer d'organiser les choses. Est-ce que vous auriez une question éventuellement ou une remarque à faire ?